Bonjour, ici Normand Hébert. Vous êtes à l'émission Paysages littéraires à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui m'a été remis ici par une amie de Victoria. Son nom est Sylvia. Et c'est un livre dont le titre est « Le chemin interdit ». Un roman de Alfred Victor, publié aux éditions VLP. C'est un grand roman contemporain, et la description sommaire se lit comme suit. Lucien fait partie de ces héros qui triomphent de tout. La lutte acharnée qu'il doit mener contre l'adversité, la mort, la paralysie, cet art, la misère noire et la persécution afin de franchir le chemin interdit ne peut s'accommoder de compromis. Marguerite, tour à tour tigresse, princesse ou Dalila, est le symbole de la beauté angélique, chaste et spirituelle, évoquant l'image de la pudique Vénus de Botticelli, naissant de l'écume de la mer. Elle deviendra aux yeux de Lucien la grande criminelle et celle par qui la tragédie arrive. Un grand moment d'histoire, une aventure palpitante qui se déroule pendant et après la Deuxième Guerre mondiale dans un pays de l'Europe de l'Est que les soubresauts de l'histoire ont projeté à l'avant-scène de l'actualité. La Roumanie, dont le peuple a par tradition, le culte de la France et de sa culture. Le chemin interdit d'Alfred Victor, un Québécois d'origine roumaine, n'est pas une fiction. C'est l'histoire épique d'un amour impossible et d'une passion indestructible que ni les caprices de l'histoire ni la barbarie humaine n'ont pu anéantir. Donc, je vais vous lire quelques passages de son livre, excusez pour le bruit de fond. Pour mettre un terme à ces détails désagréables, parlons plutôt du jour où je sortis de l'hôpital. Le médecin-chef demanda à me voir avant de mon départ. Je gagnai son bureau en m'aidant d'une paire de béquilles qui devaient être les compagnons inséparables de ma jeunesse et la raison de compassion ou de dédain des autres. Le médecin m'installa lui-même dans un fauteuil très confortable, ayant la capacité de recevoir 5 personnes de ma taille. Il me regarda avec tendresse et sa voix vibra d'émotion au commencement. « Voilà le grand jour arrivé, mon garçon. Un miracle de la nature, plutôt que de la science, s'est accompli. Il y a 3 ans et demi que l'ambulance t'a amené ici. Tu étais un cas sans espoir. Me comprends-tu ou veux-tu que je te répète? » Mon signe de la tête pour lui dire que je comprenais très bien fut si ferme qu'il ne chercha plus d'autres mots qui, selon lui, auraient pu m'être plus accessibles. En effet, malgré mon état, je compris tout et retins si bien que je peux mettre dans mon vocabulaire actuel ce que j'avais entendu alors. Nous avons fait tout ce qui était de notre devoir, mais il s'agissait d'un cas désespéré. Un de mes collègues regrettait que notre profession ne nous donnât que le droit d'essayer de guérir, en nous défendant de mettre fin aux souffrances inutiles. Il disait que les anciens étaient plus humains dans leur cruauté, quand ils obligeaient les parents à jeter dans un précipice les enfants nés difformes ou affligés d'une maladie incurable. Tu comprends? Mon second signe d'approbation l'encouragea à continuer.
Dans ton cas, je peux te le dire maintenant, j'étais de l'avis de mon collègue. mais ton petit corps s'était entêté à survivre. Encouragés par ton étonnante résistance à nos expériences audacieuses, nous nous sommes acharnés sur chacune de tes multiples fractures pour remettre à leur place ou interchanger des morceaux d'os broyés. Des morceaux d'eau broyés. Nous avons dû souvent revenir sur un travail précédent qui n'avait pas donné de bons résultats et opérer à plusieurs reprises. Avec le temps et de la patience, nous voilà arrivés à l'état actuel. Tu peux marcher maintenant ou rester debout à l'aide de tes béquilles. Ton genou droit est presque ankylosé et ton bras gauche est à peu près dans le même état. Ce sont les membres qui avaient été les plus touchés dans ta chute du troisième étage. Lorsque j'entends ces mots, j'essayais de faire un bond de mon fauteuil, mais, incapable de me dresser, je tombais vers le dossier tout en grattant de mes ongles le cuir des bras, dans mon effort de trouver un appui. Le médecin me calma d'un geste de la main et me dit « Nous allons parler de ça une autre fois. Occupons-nous plutôt du présent et de ce qu'il reste à faire. Peu d'espoir subsiste pour un retour à la normale de ces deux membres, à moins que le diable qui se cache dans ton petit corps ne joue un nouveau tour à la science médicale. Tu pourras alors compter sur une guérison complète ou presque. Mais pour arriver à un tel résultat, tu dois endurer les souffrances inévitables du traitement. C'est un long chemin jusqu'à ce que tu sois complètement remis et capable de te servir des membres déjà récupérés, et peut-être aussi de ceux qui ne laissent pas trop d'espoir aujourd'hui. Pour revenir à la normale, tu dois avoir du courage, de la patience et de la persévérance, et observer scrupuleusement le traitement et les exercices prescrits. Chaque séance manquée te jettera en arrière et tu ne feras que prolonger ton calvaire. Les exercices doivent être repris chez toi en permanence, même au lit, quand tu es assis ou que tu marches. À propos, tu dois beaucoup marcher, tu dois serrer les doigts très souvent, plier continuellement les bras et les jambes jusqu'à la limite supportable et même au-delà. Et surtout, n'oublie pas de respirer profondément et de rythmer ton souffle au mouvement de tes membres. Ne te laisse pas entraîner par un sommeil trop prolongé et tâche de rester au lit le moins possible. Pendant la guerre, j'avais remarqué que les blessés qui gardaient le lit mettaient plus de temps à guérir que ceux qui circulaient toute la journée dans la cour de l'hôpital et ne revenaient s'allonger que pour le temps de reprendre leurs forces. Un de mes collègues, professeur à l'université et chirurgien réputé, a mis à profit ses observations et a commencé un traitement très original. Il demande à ses patients de descendre de la table d'opération et de gagner le lit par leurs propres moyens. Il leur impose ensuite de circuler le plus possible, car le propre de l'existence est le dynamisme, tandis que l'immobilité est l'anéantissement. L'horizontal, c'est la mort, le vertical, c'est la vie. Et le médecin mima les deux positions pour être plus convaincant. N'oublie pas notamment ce conseil, mon enfant. Et maintenant, passons à tes moyens d'existence. À notre grand regret, personne ne s'est intéressé à toi. Et les recherches pour trouver au moins un membre de ta famille n'ont donné aucun résultat. C'est l'assistance publique qui te prendra en charge, et après, ce sera ta propre chance dans la vie, car tu as eu de la chance dans tout ce malheur. Ne te décourage jamais et lutte. Un vieux proverbe roumain dit « Quand la tête manque, ce sont les jambes qui souffrent. » Dans ton cas, la tête est intacte et si tu as la gardes toujours comme ça, tes membres n'auront jamais besoin de se plaindre. Au revoir, mon enfant, et bonne chance. Malheureusement, si les membres me servaient plus ou moins péniblement, ma langue était encore plus désobéissante. Je pouvais à peine lier quelques mots et je bégayais affreusement. Il me fut donc impossible de lui dire merci et de le saluer, ainsi que me l'avait recommandé sœur Anne. Voilà, nous venons de lire, je viens de vous lire une première partie de cette émission. Nous allons maintenant prendre une pause et ensuite je vais revenir à ce livre « Le chemin interdit », un roman de l'auteur Alfred Victor. Merci de m'écouter. À tantôt. Bonjour, de retour à l'émission Paysages littéraires en présence de Normand Hébert. Je poursuis le deuxième segment, toujours avec le roman Le chemin interdit de Alfred Victor. Placé dans une institution publique, un orphelinat, mes liens avec l'hôpital ne furent pas complètement coupés, car on m'y transportait chaque jour dans la voiture de l'institution pour continuer les traitements électriques, les massages et la gymnastique orthopédique. Grâce à ces soins, je fus un peu plus à l'aise sur mes béquilles. Une vieille dame en charge du ménage de l'hôpital s'apitoya sur mon sort, étant toute seule au monde au moment de sa retraite, obtint l'autorisation de m'emmener chez elle et de s'occuper de moi sous la surveillance de l'assistance sociale qui devait me rendre visite une fois par semaine. Alors, sœur Anne venait aussi chez nous assez souvent, surtout les soirs et les dimanches. Avec la même patience, elle m'apprit à lire, chose qui ne me parut pas extraordinaire, car je mis peu de temps avant de commencer à avaler tous les livres illustrés qu'elle m'apportait. Je lisais même les journaux et je comprenais presque tout. Mais les contes de fées étaient ma lecture préférée. La difficulté commençait quand je devais lire à haute voix ou écrire. Je passais des heures interminables à dessiner les lettres et le simple fait de copier quelques mots me fatiguait énormément. À la rentrée des classes, après un bref examen, je fus admis à suivre les cours du lycée, mais à une classe inférieure, avec le droit de sauter, sous le contrôle du ministère et graduellement à la situation antérieure de celui dont je portais le nom, c'est-à-dire d'accéder à la classe correspondant à mon âge. Je fus la risée de mes camarades dont j'étais de 4 ans l'aîné. Croque en jambes et coup de poing étaient leur sport favori aux dépens de ma faiblesse, tandis que mon bégaiement constituait le délice de leur vie, surtout quand ils s'efforçaient de se dépasser en imitant mon balbutiement. Un jour, on nous annonça pour une date très rapprochée la visite de l'inspecteur. Le professeur d'histoire, responsable aussi de la discipline de notre classe, en était très préoccupé et essaya de nous préparer le mieux possible. Il fit une récapitulation générale de la matière inscrite au programme, et comme il savait très bien que le délégué du ministère avait l'habitude de demander quelle serait la carrière que nous aimerions choisir à la fin de nos études, il nous posa aussi, à chacun, cette question. Mes camarades parlèrent de leurs projets, d'avenir, de leurs désirs ou de leurs ambitions. Mon tour arriva. Et avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour essayer de dire, avec un haussement d'épaule, « C'est pas », un élève surnommé par ses copains Marcel le Renard, se dépêcha de répondre à ma place, « Avocat ». Et toute la classe, y compris le professeur, se tordit de rire. C'est ainsi qu'ils trouvèrent mon sobriquet, l'avocat, et chacun se faisait un plaisir sadique de me le lancer et même de me le hurler à l'oreille quand je faisais semblant de l'ignorer. Une fois, je restais cloué à mon pupitre car Marcel le Renard m'avait volé les béquilles et, imitant la manière dont je m'en servais, faisait l'avocat devant la cour et bégayait en tirant la langue et en fermant les yeux pour accompagner chaque effort de sortir un mot. En rentrant à la maison, je tombai en sanglots dans les bras de Sœur Anne, qui était arrivée quelques minutes avant moi. Par des cris de désespoir entrecoupés de hoquets, car les larmes m'étouffaient, je lui déclarai mon intention de ne plus retourner à l'école. Pauvre Sœur Anne, ange gardien et ange de patience, béni soit ton souvenir. Elle me sécha le visage, calma mon accès de détresse, en m'assurant que tout serait arrangé pour le mieux, et me promit d'aller le lendemain rencontrer le directeur du lycée, qui, d'après ceux qui le connaissaient, était un homme très sévère, mais très juste. Elle me conseilla de ne pas donner satisfaction à mes ennemis en renonçant à l'école, et attira mon attention sur le fait que, dans la vie, on a très peu d'amis sincères, peut-être un ou deux, tandis que les ennemis sont toujours légions. Et pour illustrer cette vérité, elle me raconta une fable de Florian dont la moralité était « À quoi bon tant d'amis? Un seul suffit tant il nous aime. » Le lendemain, Sœur Anne m'accompagna à l'école et entra chez le directeur, à qui elle expliqua en détail tous mes malheurs, en soulignant que les tortures morales auxquelles mes camarades me soumettaient dépassaient même les souffrances physiques du passé. Le directeur me fit venir dans son bureau, et malgré l'impression de terreur qu'il m'avait laissée, il me parla en ami et m'assura que, dorénavant, je serai sous sa protection personnelle. À la fin, il me dit, Et maintenant, un secret entre nous deux. À ton âge, j'avais la même difficulté que toi pour parler et mes camarades se moquaient aussi de moi. Pour ma chance, j'ai appris en classe d'histoire que Démosthène avait souffert du même défaut. Pour y remédier, il s'était mis à parler au bord de la mer, essayant de couvrir de sa voix le mugissement des vagues, ou bien il prenait de petits cailloux dans sa bouche et prononçait avec patience chaque mot jusqu'à ce qu'il ait réussi à parler mieux que tout le monde pour devenir le plus grand orateur de l'Antiquité. C'est grâce à Démosthène que je suis arrivé à surmonter mon défaut. Va à la bibliothèque et demande le livre « Les grands orateurs de l'Antiquité ». Et après, tu verras que tout y est possible si on a la volonté de vaincre. Le soir, je brûlais d'impatience de rentrer à la maison pour lire le volume qu'on m'avait prêté. Chemin faisant, je ramassais des cailloux tout en épelant avec patience les mots « avocat » et « orateur ». Je lus le livre jusqu'à l'aube et le relus trois fois les nuits suivantes. Au cours de sa visite, l'inspecteur interrogea quelques élèves sur des sujets faisant partie de la matière au programme. Par miracle, je fus épargné. Vers la fin, le représentant du ministère demanda en effet à chacun quel était le choix de sa carrière. Quand il arriva à moi, mes camarades se faisaient déjà des signes espiègles ou se donnaient en silence des coups de coude. J'entendis même, venant du fond de la salle, quelques ricanements en sourdine. « Et toi, mon garçon? » « Oh non, tu peux rester assis. » Il avait remarqué mes béquilles ainsi que mes efforts pour me lever. Je fus pourtant debout et d'une voix claire et sans trébucher, je répondis « Je désire être avocat, monsieur l'inspecteur. » C'est très beau, mon ami, et tu feras un bon avocat, fut la réplique. Toute la classe resta bouche bée. Le grand moment d'hilarité générale fut manqué et mes camarades étaient stupéfaits. Ce fut ma première victoire dans la vie. Et pourtant, rien ne fut facile pour moi, et malgré mes efforts, les progrès étaient très lents et donc imperceptibles. Parfois, je m'acharnais à poursuivre les traitements prescrits jusqu'à ce que, accablé par la fatigue ou découragé par le manque de résultats, je m'abandonne à nouveau au bon plaisir du sort, entraîné par l'impuissance et l'apathie. Ainsi que j'avais été prévenu, chaque interruption du traitement avait comme conséquence une régression de mon état physique et mental. Et parfois, épuisé et ahuri par le sommeil prolongé excessivement, je n'avais plus envie de descendre du lit. Je découvrais alors que mes membres recommençaient à s'engourdir et que les béquilles étaient impuissantes à faciliter mes mouvements qui devenaient très pénibles. Quant à mon bégaiement, j'étais parfois sur le bon chemin, mais il y avait des périodes où je devais faire des efforts pour chercher les mots et j'étais incapable d'exprimer proprement même une courte proposition. Le découragement s'empara alors de moi et de plus en plus, je me persuadais que toute torture que je continuerais à m'infliger n'aboutirait à rien. Voilà, je vais terminer la lecture de ce livre. Je vais tenter de vous trouver une petite phrase, une petite citation que j'ai bien aimée. La voici. C'est une citation de Goethe. J'avais constaté que penser, c'est facile. Agir, c'est difficile. Mais ce qu'il y a de plus difficile au monde, c'est agir suivant sa pensée. Voilà, c'était... Je vous ai présenté un auteur qui a publié qu'un roman, d'origine roumaine, qui a vécu au Québec, Alfred Victor, dont le titre du roman est « Le chemin interdit ». C'était Paysage littéraire en compagnie de Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. Merci et à bientôt.